écouter la lecture de la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Colossiens, et c'est Georges qui va s'avancer pour le lire.
C'est dans le livre de Colossiens 4, au verset 7 à 18. Salutations. Tychique, notre cher ami, notre frère, qui est un serviteur fidèle et notre collaborateur dans l'œuvre du Seigneur, vous mettra au courant de tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès chez vous pour qu'il vous donne de mes nouvelles et qu'ainsi il vous encourage. J'envoie avec lui Onésime, notre cher et fidèle frère, qui est l'un des vôtres. Ils vous mettront au courant de tout ce qui se passe ici. Vous avez les salutations d'Aristarque, mon compagnon de prison, et du cousin de Barnabas, Marc, au sujet duquel vous avez reçu mes instructions. S'il vient vous voir, faites-lui bon accueil. Jésus, encore appelé Justus, vous salue également. Ces hommes sont les seuls croyants d'origine juive qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. Ils ont été pour moi un encouragement. Épaphras, qui est aussi l'un des vôtres, vous envoie également ses salutations. En serviteur de Jésus-Christ, il combat sans cesse pour vous dans ses prières pour que vous teniez bon, comme des adultes dans la foi, prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu. Je lui rends ce témoignage. Il se dépense beaucoup pour vous, ainsi que pour ceux de Laodicée et de Hiérapolis. Notre cher ami Luc, le médecin, et Démas vous saluent. Veuillez saluer de notre part les frères de Laodicée ainsi que Nympha et l'église qui se réunit dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'il soit également lu dans l'église de Laodicée et lisez vous-même celle qui vous sera transmise par les Laodicéens. Dites à Archippe, veille sur le ministère que tu as reçu dans l'œuvre du Seigneur pour bien l'accomplir. Moi, Paul, je vous adresse mes salutations en les écrivant de ma propre main. Ne m'oubliez pas alors que je suis en prison. Que la grâce de Dieu soit avec vous.
Et nous voilà arrivés à la fin de la série, de cette série fascinante sur l'épître, sur la lettre que Paul adresse aux chrétiens de la bonne ville de Colosse en Asie mineure, à l'intérieur des terres, qu'il a écrite dans les années 60 de notre ère. Vous avez le... Alors, ce n'est pas le résumé, c'est juste les titres des 10 prédications sur cette lettre. Et on en arrive aux salutations. Et quand on arrive aux salutations, on doit résister à la tentation de les escamoter ou de passer outre les salutations. Se dire, bon, c'est juste les salutations. Elles ne présentent pas vraiment d'intérêt, mais... Ce matin, on va résister ensemble à cette tentation, persuadés qu'elles peuvent être pour nous une source d'enrichissement. D'abord parce qu'il y a des noms de personnes. Et le fait qu'il y ait des noms de personnes nous montre que la Bible n'est pas quelque chose d'abstrait. Il y a des gens derrière. Il y a des gens qui doivent nous ressembler quelque part. Il y a des gens comme vous et moi qui vivent cette vie chrétienne. Au premier siècle peut-être, mais des gens avec leur personnalité, avec leurs dons, avec leurs talents, avec leurs problèmes, avec leurs souffrances. Il y a des personnes autour de Paul. On a calculé avec le Nouveau Testament, à l'aide du Nouveau Testament, qu'il y avait une centaine de noms liés à Paul. Paul n'est pas un franc-tireur, Paul il est avec des gens. Et il vit en équipe et il sert en équipe avec des gens autour d'eux. Paul en fait était très people. Ce n'était pas un intellectuel dans sa tour d'ivoire qui écrit des lettres sans être en contact avec des gens. Et il avait en quelque sorte un groupe d'amis rapprochés, une famille. Et ce matin, justement, avec ses salutations, je voudrais vous faire une petite photo de famille, un portrait de famille. Et ce qui est intéressant avec les portraits de famille, comme avec la famille Simpson, c'est de pouvoir, quelque part... Enfin, avec la famille Simpson, c'est un peu plus difficile, mais s'identifier. Et avec une autre photo, peut-être, c'est plus facile. Mais non pas « où suis-je sur la photo ?» mais « qui suis-je sur la photo ?» Et je parle des salutations de Paul dans le quatrième chapitre de Colosse. Se poser la question ce matin, « qui suis-je sur la photo ?» et peut-être faire ce travail d'identification. C'est tout l'intérêt d'un portrait de famille. Et le premier à apparaître dans la liste s'appelle Tichik. C'est un très joli nom, n'est-ce pas, comme un peu Ignace le chantait, Bourville ou je ne sais plus qui. Mais voilà, c'est un homme très précieux, voilà, Tichik, dit Paul, notre cher ami et notre frère qui est un serviteur fidèle et notre collaborateur dans l'œuvre du Seigneur, vous mettra au courant de tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès chez vous pour qu'il vous donne de mes nouvelles et qu'il vous encourage. Alors sur la photo, on se dit qu'il est peut-être accroupi au pied de Paul, juste devant lui, sous la main de Paul, juste sous sa main, parce que Tichik semble être l'homme de main, ou l'homme du coup de main, l'homme qui vient aider Paul dans le service rapproché de Paul et du Seigneur. Et Paul le précise que Tichik est avant tout un compagnon de service du Seigneur. Il est au service du Seigneur, au service de Jésus, avec Paul, l'homme du coup de main. Et ce qui est surprenant avec Tichik, c'est de savoir qu'il y a toujours un verbe à coller à son nom. Et pas seulement ici dans Colossiens 4, mais aussi dans Tite ou dans 2 Timothée 4, il y a le verbe « envoyer ». À chaque fois, Tichik est envoyé. Il est envoyé à Éphèse, il est envoyé en Crète aussi, et là, il est dit « je vous l'envoie tout exprès ». Et il semble que Tichik soit toujours en train d'être envoyé, un petit peu chromoposte. Hein. Tichik, il est envoyé. Et il est envoyé, non pas comme un courrier, mais pour des missions, et parfois des missions délicates. Il a dû amener la collecte faite par des églises d'origine païenne, amener cette collecte à Jérusalem, une église majoritairement faite de chrétiens d'origine juive. C'était délicat. On envoie Tichik. L'homme des missions délicates, car cette collecte doit servir à l'unité de l'Église, mais cette collecte peut faire le contraire. Si ce n'est pas bien amené, c'est Tichik qui est envoyé. Il est peut-être l'homme du coup de main, mais aussi l'homme de confiance. Quelqu'un a dit de Tichik qu'il possédait la plus grande qualité dans le monde, la dépendabilité. Alors c'est une traduction grossière de ma part, mais je n'ai pas trouvé autre chose. Simplement pour dire qu'on pouvait dépendre de Tichik. Il était dépendable. Il était un homme de confiance, on pourrait dire. On pouvait compter sur lui. Et Paul pouvait dépendre de Tichik pour que la mission soit remplie, que le service soit rendu, que le travail soit fait. Tichik n'était pas un expandable, là, hein, vous connaissez, mais un dépendable. On pouvait compter dessus. Être dépendable, entre guillemets. Est-ce que ce n'est pas une qualité dont nos couples, nos familles, notre équipe de travail, nos communautés, notre église auraient besoin ? De pouvoir compter parmi nous des gens dépendables. On est certain, c'est certain, on a besoin de gens comme cela. On se dit, on aurait besoin de gens comme ça dans l'Église, venez, venez, mais est-ce que moi je suis dépendable? Est-ce que je peux m'identifier à Tichik sur la photo, mon cher ami, fidèle serviteur, compagnon de service? Et moi j'aurais bien aimé être à la place de Tichik qui va à Colosse, avec la lettre de Paul aux Colossiens, qui va à Colosse, je vous l'envoie exprès chez vous avec la lettre. Et si j'avais été Tichik, moi j'aurais dit, les gars, oubliez les 3 premiers chapitres, allez directement au chapitre 4, verset 17, ou 8. Je vous envoie Tichik, mon bon et fidèle serviteur, mon ami, en qui j'ai confiance. Suis-je Tichik sur la photo? Quelqu'un sur lequel on peut compter? Et puis, il y a un deuxième nom qui apparaît, Onésime. J'envoie avec lui Onésime, notre cher et fidèle frère, qui est l'un des vôtres. Et Paul semble insister sur le fait que Onésime fait vraiment partie de la famille, de l'Église, de Colosse. Parce que Onésime semble en fait revenir un peu de loin géographiquement, mais aussi socialement et spirituellement. Onésime est un miraculé, il a un passé, Onésime. Onésime, c'est un esclave qui s'est enfui. Et dans l'Empire romain, ça ne le fait pas. L'homme, au passé, chargé, et quand on s'enfuit de chez son maître, on prend des risques énormes. Esclave, c'est déjà une position difficile, mais esclave en fuite, ça met tout de suite hors la loi, un outlaw, la loi romaine qui n'avait pas l'habitude d'être tendre avec la marchandise. L'homme, au passé, chargé, il en a fait dans sa vie. Mais à Rome, cet homme rencontre un autre homme, également au passé chargé, il rencontre Paul qui lui parle de Jésus, et il semble que Paul ait vraiment un contact étroit avec Onésime. Il aime Onésime parce que, justement, il aime les personnes au passé chargé, parce que avec ces gens-là, comme Onésime, Paul, il peut parler de la grâce de Dieu, la grâce de Dieu qui rachète, la grâce de Dieu qui libère, qui permet un avenir tout à fait ouvert. C'est Paul qui a écrit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Voici, en Christ, je suis une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici le nouveau est déjà là. » Et en Onésime, il a l'application directe de ce verset, de cette parole qu'il dit lui-même, Paul, inspiré par le Saint-Esprit. Et on a l'impression que Paul vraiment l'aime bien, parce que dans cet Onésime, il y a du nouveau. Et parce que le passé, c'est le passé grâce à la grâce de Dieu. Alors, Onésime, il a certainement un petit peu de travail encore à faire, parce qu'il faut qu'il apprenne à être chrétien maintenant, à vivre cette nouvelle création, cette nouvelle identité en Christ, comme on a parlé pour l'épître de Paul aux Colossiens. Et parce qu'une création nouvelle, ce n'est pas toujours facile à vivre, mais aussi les autres doivent accepter cette nouveauté en Onésime. C'est pas facile d'accepter dans l'Église quelqu'un au passé chargé, surtout un esclave en fuite. Surtout que dans l'Église de Colosse, il y a son maître, Philémon. Et autre part, Paul va écrire un mot à Philémon pour qu'il puisse accueillir son esclave en fuite et qu'il le considère comme un frère. Mais là, à l'Église de Colosse, il leur dit « Accueillez-les comme quelqu'un qui est des vôtres ». Il est des nôtres. Il a reçu la grâce comme nous. Des relations renouvelées parce que la grâce de Dieu est passée par là. Suis-je un genre Onésime sur la photo? Sur la photo de famille? J'imagine que sur la photo, il se cache un peu, ou il est flouté parce qu'on ne sait jamais qui pourrait regarder la photo, la CIA, la DGSE, le KGB, ça n'existe plus, les renseignements généraux peut-être. Les passés chargés, on n'a pas envie de se montrer en pleine lumière. Mais il est là, il fait partie des nôtres. Et vous avez peut-être un passé chargé, mais on est ensemble avec ce passé chargé à vivre la grâce de Dieu. Et il est bon de vous compter parmi nous. Dieu nous accueille, vous accueille aussi. Il y a un autre personnage qui s'appelle Aristarque. Lui, il vient de Thessalonique. Thessalonique, c'est en Macédoine. Colosse est plus à l'est. Et il vient de loin. Et il est loin de chez lui aussi, puisqu'il est prisonnier avec Paul à Rome. Et il reçoit le titre suprême, compagnon de captivité. Co-détenu. Magnifique titre suprême. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue. Et Aristarque, c'est un peu le contraire du parfait businessman. Vous savez, l'homme qui est au bon endroit, au bon moment, et qui est la bonne personne. Aristarque semble toujours se trouver au mauvais endroit et au mauvais moment. Quand à Éphèse, quelques années avant, les commerçants de la ville créent une émeute pour chasser Paul de la ville, parce qu'il mettait en péril leur commerce, c'est lui, Aristarque, qui se fait arrêter par la police à la place de Paul. Mauvais endroit, mauvais moment. Et il se fait très probablement molester. Quand Paul, prisonnier, part pour Rome, Aristarque part avec lui, et quand le navire passe par une énorme tempête et fait naufrage, Aristarque est là pour boire la tasse avec Paul. Et quand Paul fait de la prison, Aristarque aussi fait de la prison, son seul crime étant d'être l'ami de Paul. L'homme de tous les temps, Aristarque. Il y a un dicton qui n'est pas dans la Bible qui dit « Quand le navire coule, les rats quitte le navire. Aristarque, lui, reste, parce que ce n'est pas un rat, c'est un ami. Un ami de Paul et un ami du Christ, c'est un frère. Sa loyauté, sa fidélité, son amitié se rit des circonstances. Il est d'une solidarité exemplaire. Et ce qui est admirable chez cet Aristarque, c'est qu'il est volontaire. Il est volontaire à tout, en tout. Personne ne le force à être ce compagnon de prison, de naufrage de Paul. Il choisit de le faire. Il a choisi d'être présent au mauvais moment et au mauvais endroit. Et je crois que Paul, quelque part, lui était vraiment reconnaissant. Et parce qu'on peut s'appeler Paul, on peut posséder une détermination hors du commun, une passion pour l'Église, comme on en a parlé aussi dans la série. Il est bon quand même d'avoir quelqu'un à côté qui porte les fardeaux et qui est là par tous les temps. Le royaume de Dieu, l'Église, qui participe à l'avènement de ce royaume sur cette terre, a besoin de gens comme Aristarque, des personnes qui seraient prêtes à se départir d'un peu de leur liberté personnelle pour se mettre au service de Dieu. Et j'imagine que sur le portrait de famille, Aristarque a perdu quelques kilos, il semble un peu fatigué, le temps a fait son œuvre et les tempêtes de la vie a fait son œuvre et les difficultés d'être au service de Dieu avec Paul a fait son œuvre aussi. Mais il arbore un sourire jusqu'aux oreilles. L'homme de tous les temps. Est-ce qu'il se pourrait que je ressemble un tout petit peu, un tant soit peu, à Aristarque ? Alors on va laisser Justus. Ou on va passer rapidement, enfin pas trop rapidement quand même sur Justus, parce que on ne sait rien de Justus. C'est l'homme de l'ombre. On sait simplement qu'il s'appelle en fait Jésus, mais pour ne pas confondre avec Jésus de Nazareth, on l'a appelé Justus. Déjà, ce n'est pas son prénom. Il est vraiment dans l'ombre, mais il est quand même cité parce qu'il est là. Et il est vraiment là. Il est vraiment présent. Et Paul le salue. Et c'est peut-être l'occasion aussi de saluer ceux qui travaillent dans l'ombre et qui ne sont pas toujours à la lumière, qui ne sont pas à se dire « moi je suis là, vous avez vu, je suis là » et qui travaille dans l'ombre. Et l'Église et le royaume de Dieu a besoin aussi de ces personnes qui sont dans l'ombre, qui travaillent dans l'ombre. Il y a un autre personnage qui s'appelle Epaphras et il est bien connu des habitués. Paul en a déjà parlé, c'est lui qui apporte à Paul les nouvelles de l'Église de Colosse. Et il le fait parce qu'il est très certainement le fondateur de l'Église de Colosse. Ce n'est pas Paul qui, comme on l'a déjà dit, a fondé l'Église de Colosse, mais c'est Epaphras. Et on retrouve pour lui le même terme que pour Paul au chapitre 2, celui de combattant. Celui qui, et vous vous souvenez peut-être pas, que le verbe combattre en grec, c'est le verbe agonizo, et qui a donné en français le mot agonie. Mais qui est un verbe qui était utilisé dans les courses, pas dans les courses de chars, mais dans les courses à pied, parce qu'on courait déjà à l'époque. Et comme pour le chapitre 2, en parlant de Paul, moi j'ai parlé de, je voudrais parler d'Epaphras comme étant quelqu'un de passionné. La passion de l'Église, pour l'Église de Colosse, de Hierapolis, de Laodicée, il y avait trois villes dans les environs. Et il était passionné. Colossiens 4, 12, il ne cesse de combattre pour vous. Il se donne beaucoup de mal pour vous, au verset 13. Epaphras, c'est l'homme du pour vous, pour les autres. Le passionné pour les gens. Et à l'heure du chacun pour soi, ou du chacun pour moi plutôt, il est bon de voir sur la photo un homme qui est encore là pour les autres, qui est passionné pour leur santé spirituelle, par la solidité de leur foi, ou qui est passionné pour l'annonce de l'Évangile, pour ces personnes qui sont peut-être en dehors, des outsiders, comme on lui disait aussi. Ce qui intéresse Epaphras, c'est ne pas savoir si sa carrière se porte bien, ou excusez-moi, s'il va toucher sa retraite. Je fais peut-être un anachronisme, mais quand même, je le dis. Mais qui s'inquiète du royaume de Dieu dans la vie des gens, dans la vie des autres. Un passionné, comme Paul, Epaphras. Ce qui le motive, par-dessus tout, c'est de savoir que les gens dont il a la charge se portent bien. C'est qu'ils soient des gens accomplis, qu'ils soient des adultes dans la foi et qu'ils fassent preuve de maturité dans leur vie chrétienne. C'est ça qui les anime, parce qu'il est un passionné de l'Église, de son édification et de sa mobilisation en tant que corps. Est-ce qu'il y a un petit peu d'Épaphras en nous, en moi ? Pas toujours. Mais est-ce qu'il faudrait retrouver peu ou prou cette passion pour les autres, cette passion pour l'Église, de son témoignage dans le monde ? Alors nous laissons, je vais avoir des problèmes, parce qu'il y a Nympha, il y a une seule femme dans cette liste. Mais elle accueille l'Église de Laodicée dans sa maison. J'avais trouvé la femme de l'hospitalité, la femme d'accueil. Non, ça faisait trop hôtesse d'accueil. Et j'ai trouvé la femme de cœur, parce que ouvrir ses portes à l'Église, donc l'Église dans sa maison, il y avait aussi Lydie à Philippe, en Macédoine, qui accueillait dans sa maison l'Église. Il ne faut pas juste ouvrir les portes en disant « bon, allez, venez, c'est bien ». J'ai quand même l'impression qu'il faut ouvrir un petit peu son cœur. Quand on accueille l'Église dans sa maison, on s'y prépare. Et elle aussi, elle aime certainement les gens, les personnes qui viennent dans cette Église. C'est une femme qui a du cœur, certainement. Et un cœur, non pas étroit comme une peau de chagrin, mais un cœur large, comme disait Jacques Brel. Il y en a qui ont le cœur si large qu'on n'en voit que la moitié. Et là, il me semble que Nympha, on voit que la moitié de son cœur. Elle ouvre sa maison, l'intimité de son foyer, hein, à l'Église. C'est tout ce qu'on sait, mais je l'imagine avec un grand cœur. On a besoin d'hommes et de femmes au grand cœur dans l'Église, et on a besoin d'être des hommes et des femmes au grand cœur dans l'Église. D'élargir notre cœur, d'allonger nos piquets, les piquets de la tente de notre cœur. Bon, allez, Archip, un dernier pour la route. « Dites à Archip, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. » Archip, c'est le jeune. Il est responsable de l'Église en l'absence d'Épaphras, le fondateur de l'Église, mais qui a rejoint Paul à Rome dans sa prison. Et il est le fils de Philémon, vous savez, le maître de l'esclave qui est en fuite. Onésime, je vous avais parlé d'une famille, hein. Philémon et Appia. Et Paul lui donne une parole forte, « Prends garde au ministère que tu as reçu. » Et j'imagine Archippe sur la photo, il est tout en couleur, la photo est en couleur, on voit qu'il est un petit peu rouge, il rougit. On vient de lui lire le message de Paul, « Prends garde au service que tu as reçu. » Et il a senti que ça s'adressait à lui. Ben oui, il y avait son nom, Archippe en plus. Mais il ne doit pas rougir, il ne doit pas être embarrassé, parce que Timothée a reçu le même message, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. » Et Paul n'est pas particulièrement sévère quand il dit cela, au contraire, ce sont des conseils d'un père. « Mes enfants, faites attention à vous. Veillez sur vous, les jeunes, là. Quelle belle ligne. Enfin, qui s'arrête là. Faites attention à vous. Et c'est un défi que quelque part, Paul vous lance, les jeunes et les moins jeunes. Et Archippe, c'est l'homme du défi. Et quand on replace cette parole dans le contexte immédiat des salutations, ce défi lancé prend une dimension particulière. Après l'énumération de tous les collaborateurs fidèles, il s'agit maintenant pour toi, Archippe, d'être fidèle comme eux. Comme eux. Veillez et non pas surveillez. Veillez pour aider tous les Archippes à poursuivre le chemin fidèlement. Le défi de la fidélité, c'est pour nous tous. Et la question que nous posent ces salutations est simplement celle-là, la question de la fidélité. Et on est frappé dans tous ces versets de la présence de ce petit mot, je ne sais pas ce que c'est, est-ce que c'est un adverbe ou une préposition « avec ». Qui est intégré dans les mots grecs, co, dans tous les mots grecs. Ce mot avec, co-détenu, collaborateur, compagnon de service, compagnon de combat, tous ces gens sont des gens qui vont avec. En Belgique, on aime mettre ce petit mot un petit peu partout. Tu te souviens, Georgette ? Quand on veut dire, à Bruxelles et autre part, en Belgique, tu viens avec nous, on dit, ah, tu viens avec ? On oublie le nous. Et on dit, allez, viens avec. Avec. Pour devenir un collaborateur, un compagnon, ou un compagnon. Attention à ma prononciation. Un compagnon de combat, un compagnon de service, un co-détenu. Enfin, ça, je vous le n'encourage pas à aller en prison, mais pourquoi pas ? À un moment, peut-être. Et cette parole est pour nous ce matin, alors que nous avons parlé de l'édification de l'Église, de cette Église qui fonctionne comme un organisme vivant, comme un corps, alors que nous avons vu aussi les besoins de l'Église. Allez, tu viens avec ? Je ne suis pas un sergent recruteur, parce que le texte insiste sur un autre avec. Être avec. Il nous dit que c'est être avec le Christ qui est le plus important. C'est de trouver une relation avec le Christ. La fidélité est avant tout avec le Christ, mais cette fidélité avec le Christ va nous appeler à nous mobiliser, à nous engager pour lui dans son royaume et, j'ose le dire, dans son Église. Ce portrait de famille est là pour nous questionner sur notre engagement en tant que chrétien dans son Église, dans l'Église de Christ et dans le monde. Est-ce que je veux être avec Christ, bien positionné en lui, faire partie de sa famille pour servir avec ceux du dedans, pour que ceux du dehors puissent recevoir un témoignage de cette grâce extraordinaire de Dieu en Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de devenir un Aristarque, un Onésime ou un Épaphras ou une Nympha, il s'agit de rester qui vous êtes, mais d'être avec Jésus-Christ. Et Paul termine le passage en mentionnant la grâce au verset 18, que je vous salue, moi, Paul, de ma propre main, que la grâce de Christ, sous-entendu de Christ, soit avec vous. C'est elle qui nous accompagne au service de son Église. Que la grâce d'être qui vous êtes, mais avec le Christ, soit avec vous tous. Amen. Que le Seigneur bénisse la prédication de sa parole et de cette belle épître de Paul aux Colossiens.